Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux troubles bipolaires. C'est une maladie chronique fréquente qui concerne de 1 à 3% de la population mondiale. Elle débute le plus souvent à l'adolescence et dans laquelle alternent des phases de dépression majeure et d'excitation maniaque. Dans un épisode dépressif, un bipolaire ressent des difficultés de concentration, de mémoire, une tristesse pathologique, sommeil et libido sont aussi perturbés. Et les périodes d'excitation sont finalement le miroir inversé, accélération motrice et psychique, optimisme démesuré, toute puissance et parfois même mégalomanie. Les troubles bipolaires sont sous-diagnostiqués, les patients errent souvent plusieurs années avant qu'un diagnostic ne soit posé. Ensuite, la prise en charge est parfois aussi inadaptée, pourtant il existe des traitements efficaces et des techniques de psychothérapie. Alors comment diagnostiquer les troubles bipolaires? Comment mieux prendre en charge les phases dépressives et les phases d'excitation? Quelles en sont les causes? C'est ce qu'on va voir avec mes invités aujourd'hui. Ils sont quatre. Le professeur Franck Bélivier, qui est responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologique du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière Fernand Vidal. Le professeur Rim Gachemacha, qui est chef du service de la consultation externe des urgences psychiatriques à l'hôpital Razi Manouba à Tunis. Elle préside également la Société tunisienne de psychiatrie. Également avec nous, Marie Elviri et Hélène Gabel, qui sont toutes les deux bipolaires. Elles ont publié ensemble « J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir ». C'est un livre qui est paru aux éditions Payot. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 80 82 75 deux fois. Professeur Rim Gachemacha, professeur Franck Bélivier, Marie Elviri, bonjour.
Bonjour.
Hélène Gabert, bonjour à vous également. Vous êtes en duplex de Bruxelles, on vous entend un peu plus loin. Vous êtes dans les bureaux de notre correspondant Pierre Bénazé au Centre de presse international. Professeur Franck Bélivier, comment d'abord pose-t-on un diagnostic de trouble bipolaire ?
Vous l'avez déjà évoqué, le trouble bipolaire est défini par l'alternance de périodes dépressives majeures, de quelques semaines à plusieurs mois, avec des périodes d'excitation pathologique séparées par des intervalles plus ou moins libres, en tout cas où les symptômes sont beaucoup moins invalidants, handicapants. Et finalement, les points d'appel pour suggérer ou évoquer un trouble bipolaire sont ces phases majeures d'excitation pathologique ou de dépression majeure qui font tout le handicap de la pathologie.
C'est un diagnostic difficile à poser ?
Alors ça, c'est un point extrêmement important parce que les données dont on dispose sur ce sujet indiquent très clairement que il faut entre 8 et 10 ans pour faire un diagnostic de trouble bipolaire, c'est-à-dire entre le premier épisode majeur et la mise en œuvre d'un traitement adapté, régulateur de l'humeur, eh bien il s'écoule en moyenne 8 à 10 ans. Alors les raisons en fait sont diverses, la phénoménologie clinique qui est plus ou moins évocatrice. Les patients sont plus ou moins enclins à solliciter de l'aide. Donc il y a un nombre de facteurs très importants qui contribuent à ce retard diagnostique.
Marie Elviri, c'est ce qui vous est arrivé, hein, je crois, 8 ans pour qu'un diagnostic
oui,
soit posé.
Oui,
comment s'est manifestée votre maladie au début ?
Au début, j'ai fait une crise maniaque très forte, où j'ai perdu pied avec la réalité. J'ai eu des paranoïas très fortes. Je pleurais. Le monde m'apparaissait comme étant très à la fois excitant et odieux. Enfin bon, avec ce sentiment classique de surpuissance, etc.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 23 ans. Et puis, j'ai demandé à mes parents, qui n'ont rien compris du tout, à aller à l'hôpital. Et dans cet hôpital, on m'a soignée. Alors, j'ai plus du tout souvenir des médicaments qu'on m'a donnés, mais on n'a pas compris non plus.
Et alors, après cette phase maniaque, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu une phase dépressive ?
Il y a eu une phase dépressive d'un an. J'ai été d'abord assommée par des médicaments qui m'ont stoppé la phase maniaque. Et puis, j'ai eu une phase dépressive qui a duré un an, où j'ai continué à aller à la fac, etc. Mais ça a été terrible. J'arrivais même plus à écrire, par
exemple. Il a fallu combien de crises comme ça pour que le diagnostic soit posé ?
Personnellement, il m'en a fallu trois. Donc j'ai aussi changé de médecin, d'établissement, clinique, etc. Donc ça n'a pas dû, les dossiers n'ont pas été suivis d'un établissement à un autre. Donc ça n'a pas dû arranger l'affaire. Mais il m'a fallu, trois crises très très fortes, un viol, etc. Enfin,
des choses lourdes.
Oui.
Hélène Gabert, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Combien de temps il a fallu aussi pour qu'un diagnostic de bipolarité soit posé?
Il a fallu un certain temps, à savoir que moi j'ai eu une première déprime à 14 ans, une dépression majeure à 19 ans. Et à l'inverse de Marie qui présente un trouble bipolaire 1, moi je présente un trouble bipolaire 2 qui est une forme plus atténuée et donc aussi plus pernicieuse et plus difficile à diagnostiquer. Avec le recul, j'identifie la première période, la première crise hypomaniaque à 26 ans. Et moi, j'ai été diagnostiquée à 31 ans. Après 18 mois à 24 mois d'observation clinique par ma psychiatre.
Quelle a été votre réaction au moment où on pose le diagnostic de bipolarité? Est-ce que c'est un soulagement qu'on mette un nom sur votre maladie ou au contraire une très vive inquiétude?
Pour moi, ça a été un coup de massue. À savoir, l'idée était insupportable de me dire que j'allais vivre avec des hauts et des bas toute ma vie, même si cela pouvait être pris en charge. Et en même temps, un soulagement, parce que ça déculpabilise en se disant, bon, c'est pas forcément lié à telle et telle personne, à tel et tel événement, et finalement, c'est quand même un trouble... neurobiologique, chimique, qui fait que...
Oui, c'est pas de votre faute.
C'est pas de notre faute et c'est déculpabilisant.
Oui, c'est ça. C'est à vous, je crois, parce que qu'on a renvoyé assez souvent ne t'écoute pas trop, bouge-toi, enfin, fais un effort.
Oui, c'était ça. On m'a souvent pris pour quelqu'un qui était très nombriliste, très individualiste, et puis qui se regardait beaucoup elle-même.
Professeur Rim Gachet-Mathia, la bipolarité se manifeste-t-elle de la même façon en Tunisie et en France? Vous avez participé, il y a eu des études qui ont été faites justement pour comparer les patients bipolaires en France et en Tunisie. Est-ce que ça se manifeste de façon différente dans votre pays?
Ça se manifeste exactement de la même manière, mais c'est vrai qu'en Tunisie, quand les études qui ont été faites concernent l'hospitalisation, donc on concerne les patients qui ont été hospitalisés, et en Tunisie, en général, la phase dépressive passe sous silence, parce que les familles sont très contenantes et en général la dépression dans notre condition et société arabo-musulmane, c'est un peu ne pas accepter la vie, donc parfois ça passe sous silence et ça donne des catastrophes, et donc c'est beaucoup plus les accès maniaques qui sont l'objet d'hospitalisation, et la comparaison entre les deux pays a montré que justement en Tunisie, le premier épisode d'hospitalisation c'était un accès maniaque beaucoup plus qu'un accès. Dans les trois quarts des cas, c'était un accès maniaque.
Plutôt qu'un
épisode dépressif. Et que ça concernait plus les hommes, parce qu'en général, les femmes aussi, on les hospitalise pas facilement, parce qu'on veut aussi protéger la femme de la stigmatisation.
Et l'aspect maniaque provoque une hospitalisation, parce qu'au bout d'un moment, c'est ingérable finalement pour la famille, c'est ça.
C'est ingérable, et surtout, ça peut provoquer des actes dangereux pour la personne et dangereux pour autrui. Donc, c'est ce qui provoque l'hospitalisation en milieu psychiatrique.
Hélène Gabert l'a dit tout à l'heure, il y a un regard quand même sur ces maladies bipolaires, ces maladies psychiatriques, avec des images du genre « mais bouge-toi, arrête de te regarder le nombril ». Est-ce qu'il y a cette même image en Tunisie?
C'est vrai que cette image existait en Tunisie dans les années 70, comme je pense en France. C'est-à-dire que jusqu'en 2000, 2005, cette image de maladie psychiatrique était très stigmatisée. Mais quand on dit que, par exemple, notre premier président de la République était bipolaire et que il avait fait de la sismothérapie à Sainte-Anne et que c'est grâce à sa bipolarité qu'il a fait déjà des choses géniales et qu'il a émancipé la femme et qu'il a dépassé tous les tabous. C'était certainement dans une phase maniaque mais bien contenue. Et
il y a beaucoup de bipolaires très connus d'ailleurs.
Oui, pour nous c'est vraiment la façon qu'on a de faire pour dire aux gens être bipolaire, c'est pas un handicap. Au contraire, ça peut être quelque chose de génial. Et je pense que réellement, entre le génie et la bipolarité, il y a un lien.
La différence est tenue, c'est ça. Professeur Franck Bellivier, il y a quand même encore un regard en France et dans les pays occidentaux sur cette bipolarité, avec encore des images, comme nous disait Hélène Gabert, du bouge-toi.
Alors, oui, c'est assez difficile à comprendre de l'extérieur, et c'est d'ailleurs un des aspects importants de la communication autour de cette pathologie, c'est-à-dire de faire reconnaître les désordres intérieurs majeurs qui échappent complètement au contrôle de la personne, et donc ce n'est évidemment pas accessible à la volonté, ces grands fluctuations vers le haut ou vers le bas échappent totalement au contrôle de la personne, et communiquer sur ce sujet-là de la perte de contrôle, de l'hyperréactivité émotionnelle, de ces volcans ou au contraire de ces phases complètement éteintes qui échappent encore une fois totalement au contrôle du sujet, c'est extrêmement important. Donc le bouge-toi est quelque chose de très contre-performant, c'est le signe d'une incompréhension de l'extérieur à la décharge des proches et du grand public, c'est que c'est effectivement des phénoménologies qui sont difficiles à appréhender, mais qui sont extrêmement... Ce message « bouge-toi » est évidemment un message redoutable, très culpabilisant pour la personne, qui fait une expérience très, très, très traumatisante d'une modification de son état intérieur sur lequel elle n'a pas de prise.
Et on va voir tout au long de cette émission les traitements et les recherches pour de meilleurs traitements.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la bipolarité. Après avoir vu les difficultés pour poser un diagnostic, j'aimerais qu'on revienne sur la question maintenant des traitements. Franck Bellivier, quels sont les traitements? Une fois que le diagnostic est posé de bipolarité, on fait quoi?
Alors, c'est un champ qui se développe considérablement ces dernières années. Nous avons un arsenal thérapeutique très, très complet, avec des mesures médicamenteuses, non médicamenteuses, et donc ça c'est une source d'espoir très important, parce que c'est un champ qui se développe beaucoup. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la définition d'un programme personnalisé, c'est-à-dire quelles sont les mesures qui vont être adaptées pour un patient donné, puisqu'il n'y a pas de mesures univoques. Il faut un traitement régulateur de l'humeur, il faut des mesures psychothérapiques, mais ceci doit se définir en réalité à géométrie variable et adapté à la situation de chaque patient.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas quel traitement va être efficace sur quel patient?
Alors ça, c'est un problème principalement des traitements médicamenteux, c'est-à-dire qu'il existe une très grande variabilité de la réponse à ces différents traitements que nous avons. Globalement 30 à 40% de non-répondeurs pour une molécule donnée. Pour à peu près toutes les molécules, on a ce taux de 30 à 40% de non-répondeurs. La difficulté, c'est que nous sommes totalement incapables de prédire qui va répondre et qui ne va pas répondre à tel produit. Et ça, c'est comme nous sommes sur des mesures prophylactiques de prévention des rechutes. J'espère que j'aurai l'occasion de dire un peu plus tard combien cet objectif-là est supérieur à celui de guérir des épisodes.
C'est-à-dire, c'est ça, en fait, on cherche d'abord à guérir l'épisode, et puis après, on cherche un traitement de fond pour éviter qu'il y ait des rechutes à la fois de dépression et de phase maniaque, c'est ça?
Exactement. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le handicap de la pathologie n'est pas lié aux épisodes majeurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce que les patients vivent. Des tremblements de terre terribles pendant des semaines, des mois, ils sont hospitalisés, la souffrance, le vécu subjectif de ces épisodes majeurs est très important. Et pourtant, le handicap de la pathologie n'est pas là. Ce qui fait le handicap de la pathologie, c'est le caractère récurrent de ces épisodes, lié au fait que c'est une pathologie qui majoritairement apparaît chez le sujet jeune. Et donc c'est ces récurrences de handicap pendant quelques semaines, quelques mois, dans une période très critique de la vie où le sujet est en plein développement sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan affectif, qui va avoir un effet très dévastateur sur le développement d'un individu. Un épisode, on s'en remet. Deux, bon voilà, surtout s'il y a une période de convalescence un peu longue. Mais si entre 15 et 25 ans, on a eu 3 hospitalisations durable avec une période de convalescence de plusieurs mois, ça va avoir un retentissement très, très important.
Vous, Marie Elvéry, si je ne me trompe, en gros, entre 23 et 35 ou 40 ans, vous avez eu 7 épisodes en tout, c'est ça?
Oui, entre 23 et 47, en fait. Enfin, 40.
Parce que ça fait 5 ans que vous n'avez plus d'épisodes.
Ça fait, oui, 5-6 ans que je n'ai plus d'épisodes.
Dans ce livre, J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir, vous racontez les phases d'hospitalisation, des phases très douloureuses.
Oui, alors ça dépend peut-être des hôpitaux. Moi, j'ai été dans 3 types d'hôpitaux différents pour cette hospitalisation. C'est de toute façon, quand on est en phase maniaque aiguë, on est en chambre d'isolement. Dans des unités très fermées où on n'a pas le droit du tout de sortir à l'extérieur
votre mari pouvait venir vous voir?
Mon mari pouvait venir me voir. Au début, mes enfants ne pouvaient pas venir me voir. Ensuite, évidemment, on est dans des unités un peu plus ouvertes sur l'extérieur, hein. Donc on n'a aucune visite. Enfin, c'est vraiment des chambres d'isolement, quoi.
Aujourd'hui, vous avez un traitement qui, en gros, on peut dire, évite justement ces crises, vous a évité de retourner à l'hôpital?
Oui, alors j'ai un traitement depuis 6 ans qui me stabilise. J'ai été traitée au lithium dès l'âge de 30 ans quand j'ai été diagnostiquée. Le problème, alors j'ai une grande chance.
Vous continuez, vous êtes toujours sous lithium?
Oui. J'ai une grande chance, c'est que je supporte le lithium. Maintenant, j'ai je m'habitue aux psychotropes et il m'en faut à chaque fois davantage.
Il faut augmenter les doses, en gros.
Oui, il faut augmenter les doses.
Vous avez des effets secondaires, justement, des traitements? Vous avez dit non pour le lithium. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces effets secondaires?
Les effets secondaires, c'est ma sorcière de tous les jours. C'est la prise de poids, c'est les difficultés de concentration, l'endormissement. C'est les trous de mémoire, etc. Je pense pas qu'on puisse ingurgiter une telle chimie pendant des années.
Sans que ça laisse quelques traces. On reviendra sur ces effets secondaires avec vous, professeur Bellivier, parce que c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'il faut aussi que certains patients, d'ailleurs, ont envie d'arrêter les traitements. Et Hélène Gabert, pour vous, je crois que le lithium, au contraire, ça n'a pas bien marché. On a mis du temps à trouver, d'ailleurs, que ça marchait pas et à vous trouver le bon traitement, entre guillemets.
Effectivement, le lithium n'a pas été salvateur pour moi. C'est un traitement qui est plutôt là pour réguler les accès maniaques. Et à la différence de Marie, moi je n'ai que des accès hypomaniaques. Et des personnes souffrant de troubles bipolaires comme moi, on les repère plus par leur accès dépressif que leur accès hypomaniaque. Et donc, on a plutôt tendance à leur administrer des antidépresseurs. Et à ce moment-là, se révèle vraiment le trouble bipolaire, puisqu'on ne soigne pas un trouble bipolaire avec un antidépresseur, mais avec un régulateur d'humeur. Et après plusieurs années de lithium qui m'ont complètement inhibé mon caractère, j'ai aujourd'hui un antiépileptique qui fait office de régulateur d'humeur. Je ne sais pas si on peut le citer, mais de toute manière, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais aujourd'hui, qui me convient tout à fait et avec très très peu d'effets secondaires, cela m'a juste modifié le sommeil. Je dors un petit peu moins qu'avant, mais c'est pas pour me déplaire non plus.
Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, justement, vous allez bien, c'est-à-dire ces épisodes dépressifs sont moins fréquents?
J'en ai plus du tout. Mmh. Ça fait 3 ans que je suis complètement stabilisée, mais il n'y a pas que la molécule chimique qui m'a aidée à arriver à cet état de bien-être. Je peux enfin dire aujourd'hui que j'ai acquis une sérénité que je n'ai jamais eue par le passé, à savoir que j'ai fait une psychothérapie comportementale et cognitive qui m'a vraiment beaucoup aidée. Je me suis aussi investie dans une association de groupes d'entraide mutuelle où le fait de confronter son expérience avec d'autres usagers permet de déceler
les moments où ça va moins bien.
Oui, et de déceler des outils pour prévenir les rechutes. Et puis j'applique aussi tous les jours un programme de pleine conscience qui m'aide vraiment à prendre du recul.
On reviendra dans la deuxième partie de cette émission justement sur ces programmes éducatifs et psychothérapeutiques. On continue à parler des troubles bipolaires juste après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des troubles bipolaires avec le professeur Franck Bélivier, qui est responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologique au groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière Fernand Vidal à Paris. Le professeur Rim Gachematia, qui est présidente de la Société tunisienne de psychiatrie, et Marie Alvéry et Hélène Gabert, qui sont toutes les deux bipolaires. Elles ont publié ensemble « J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir ». C'est un livre qui est paru aux éditions Payot. Juste avant les informations, on parlait des traitements des troubles bipolaires. Professeur Gachematia, qu'en est-il de la disponibilité de ces traitements en Tunisie? On parlait entre autres du lithium. Est-ce que c'est un médicament aussi que vous utilisez?
Oui, tout à fait. On a à peu près le même arsenal thérapeutique en France. Et même parfois, on a eu des médicaments qui sont arrivés en Tunisie avant qu'ils n'arrivent en France. Le lithium donc existe depuis très longtemps en Tunisie. En général, c'est vrai que pour un trouble bipolaire, on essaye on voudrait privilégier le lithium, mais on doit s'assurer que la personne est dans une zone où il y a des laboratoires, qu'on puisse faire d'une lithémie, parce que comme on le sait, la dose toxique et la dose thérapeutique sont assez proches, donc on doit vraiment faire très attention, surtout s'il habite à 150 km ou à 200 km, où il n'y a pas
de
laboratoire et de psychiatre. Mmh. Parce que comme nous ne sommes pas très nombreux en Tunisie, nous sommes 272 pour 11 millions d'habitants, il y a des régions qui sont vraiment démunies de psychiatres.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un peu une réticence à utiliser le lithium? C'est un médicament qui fait peur?
Exactement, c'est un médicament parce que le diagnostic, une fois qu'on le pose, parfois fait peur. Les personne préfère dire j'ai fait une petite dépression, et c'est passé. Mais quand on dit que bipolaire, pour eux c'est une maladie chronique, et ils ont vraiment du mal à l'accepter. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est surtout les médecins. Les médecins, quand on a un médecin devant soi et qu'on lui dit vous êtes bipolaire, mais non, je fais des petits
moments de fatigue, c'est tout.
En plus, quand ils sont dans un état hypomane, ils sont tellement bien qu'ils ont pas envie d'être traités. Donc c'est toujours très difficile de faire accepter ce diagnostic. Moi, j'ai trouvé beaucoup de difficultés avec les médecins et avec les gens qui sont plus cultivés que les autres. Quand il s'agit de personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances en psychiatrie, ils acceptent comme ils acceptent qu'ils sont diabétiques, ils acceptent toutes les autres maladies. Mais quand qu'ils ont un niveau intellectuel un peu plus élevé, vous, les psychiatres, vous voulez tout diagnostiquer avec votre nouvelle classification, on est tous malades, etc., etc., etc.
Et vous voulez insister sur le fait que c'est important de se traiter, d'accepter le traitement.
Voilà, je voulais dire, comme on le sait, se traiter précocement, c'est vraiment très important. On sait que ça peut diminuer 9 ans de la vie. Et puis, au niveau de la qualité de la vie, c'est très important d'avoir pris son traitement à temps. Et je pense que toutes les personnes qui ont été diagnostiquées assez tôt, ça a vraiment fait changer leur vie.
Une réaction par rapport à ça, justement, Marie Alvéry. Pour vous, ça a été évident de se traiter? C'est évident tous les jours de bien prendre le traitement? Vous avez des moments où...
Non, c'est pas évident du tout. Le traitement au long cours, c'est toujours quelque chose qu'on a envie de remettre en question, etc. Bon, moi, j'ai pris le parti des médicaments, absolument, parce que une fois j'ai arrêté et je me suis retrouvée à l'hôpital directement. Donc
vous êtes voilà. Une bonne observante du traitement.
Donc, je suis une bonne observante du traitement, mais bon, oui, enfin, il m'arrive d'avoir envie de les vomir, etc.
Quand même. C'est Hélène difficile. Gabert, qu'en est-il pour vous?
C'est vrai que pour quelqu'un qui a toujours été traité avec des remèdes des grand-mères et dans une famille dans laquelle on n'est pas malade et
on a juste un petit coup de fatigue de temps en temps.
On a juste un petit coup de fatigue et c'est juste une mauvaise passe. C'est difficile d'admettre d'avoir un traitement à vie. Aujourd'hui, il me convient parfaitement. Il m'a vraiment changé la vie et je n'ose même pas imaginer l'arrêter un seul jour, quoi. Aujourd'hui,
c'est voilà, évident pour vous de le prendre.
C'est évident et ça m'a vraiment changé la vie.
Professeur Franck Bélivier, pour vous, c'est important.
C'est même un plaisir de le prendre.
Franck Bélivier, pour vous, c'est important d'entendre ça parce que j'imagine que vous voyez beaucoup de patients qui arrêtent leur traitement. D'abord, parce que comme dans toute maladie chronique, c'est compliqué de prendre un traitement en continu. Puis aussi à cause des effets secondaires qu'on avait évoqués dans la première partie de cette émission.
Non, mais le témoignage de Marie et Hélène est très, très intéressant et très important à plusieurs titres. Donc, sur la difficulté qu'il y a de prendre régulièrement un traitement, je crois qu'il faut que nous partagions avec nos patients le fait que cette astreinte, cette contrainte est une des plus difficiles. Je m'inclus d'ailleurs dans le groupe des personnes qui ont du mal à aller jusqu'au bout d'un traitement de 15 jours lorsque j'ai des antibiotiques à prendre, par exemple. Donc quand il s'agit de traitements qu'on doit prendre pendant des années, il faut absolument que nous accompagnions et que nous aidions nos patients par des mesures spécifiques, par des trucs pour faire que cette contrainte soit acceptable. Alors il y a des automatismes à trouver, là encore c'est à géométrie assez variable.
Mais il y a aussi la question des effets secondaires.
Alors les effets secondaires, là encore le témoignage d'Hélène et de Marie est important. Au sujet des effets secondaires qui ont été cités, prise de poids, troubles cognitifs, problèmes de libido, le phénomène de sédation, les modifications du caractère, il y a certainement une place, un rôle joué par ces différentes molécules dans ces effets secondaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la rencontre entre une molécule chimique et un terrain qui est extrêmement vulnérable. Les patients bipolaires sont connus pour être vulnérables à la prise de poids, au syndrome métabolique. On a par exemple des grandes cohortes de patients non traités qui ont des surpoids, qui ont des problèmes lipidiques et de diabète. Donc il y a une partie...
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a une partie des effets secondaires attribués aux médicaments qui sont peut-être simplement des effets secondaires dus à la maladie et pas aux médicaments. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Mais comme on est incapable de dissocier les deux, c'est vraiment la rencontre entre les deux. Et donc nous avons affaire à une population qui, considérée globalement, est une population de personnes fragiles de ce point de vue-là, et chez lesquelles le maniement des psychotropes va être particulièrement délicat. Il va falloir qu'on soit particulièrement attentif, l'exercice est difficile, pour que ces patients n'aient pas à se plaindre des mesures qu'on leur propose. Et si toutefois il s'avère au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années que l'option choisie n'est pas acceptable, et ça c'est quand même aux patients de le dire, eh bien il faudra que nous reconsidérions nos options pour aboutir, et ça peut prendre plusieurs années, à un protocole de prise en charge qui soit à la fois efficace et à la fois acceptable pour le patient. Ce que j'ai dit sur le syndrome métabolique, le surpoids, est vrai sur les troubles cognitifs également. La libido, c'est une affaire plus compliquée, mais qui peut aussi
faire... de manière compliquée,
qui peut faire l'objet, là encore, de mesures spécifiques, et il faut absolument que nous interrogions nos patients sur ces points. Il y a une sous-déclaration des problèmes de libido, alors que nous avons des choses à leur proposer, donc l'idée, c'est de pouvoir les interroger systématiquement. Un dernier point très intéressant qui a été signalé, je crois, par Hélène, qui concerne les modifications du caractère. L'expérience subjective très troublante des épisodes majeurs, faire une dépression majeure, pour une personne, ça laisse des traces durables parce que l'expérience subjective est très intense. L'épisode maniaque, c'est pareil, c'est extrêmement troublant. Quand on sort de ces phases-là, on est dans une espèce de perplexité qui est « mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui m'est arrivé ?»
Et qui suis-je, j'imagine.
Et qui suis-je, exactement. Et ça remodèle un peu la personnalité. Alors, les psychotropes jouent aussi leur rôle dans les modifications du caractère. Au sujet des modifications du caractère, une fois qu'on a écrété les grands épisodes, qu'on a bien contrôlé les périodes dépressives et les périodes maniaques, il reste parfois des symptômes résiduels, une hyperréactivité émotionnelle, une hyperréactivité caractérielle, qui sont en fait les manifestations résiduelles de la pathologie ou les traces laissées par ces grands bouleversements et les expériences traumatiques qu'il y a pu y avoir à cette occasion-là. Vous parliez des hospitalisations tout à l'heure. C'est rarement bien vécu. C'est des expériences très contraignantes. L'hôpital, c'est pas très marrant. Et chez certains patients, ça a pu être des expériences extrêmement traumatiques. Tout ça laisse des traces, remodèle la personnalité, modifie le caractère, en plus de l'effet, bien sûr, des traitements. Donc cette question de la tolérance est une question vraiment
très importante,
à géométrie variable, très importante et très complexe à aborder.
Et est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées pour essayer de trouver justement des médicaments avec moins d'effets secondaires? Et après on parlera des recherches que vous menez sur le lithium, mais de façon générale sur ces effets secondaires.
Mais on est sur le même sujet, vous de la variabilité de la réponse au traitement. Dans la réponse au traitement, on aborde bien sûr la question de l'efficacité thérapeutique. Est-ce que mon produit prévient efficacement et les phases dépressives et les phases maniaques? C'est ça l'objectif ultime que nous recherchons. Eh bien, la même question se pose sur les aspects de tolérance. Nous observons qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle dans la réponse thérapeutique que nous recherchons, mais il y a aussi une très grande variabilité interindividuelle dans la tolérance. Il y a des patients qui prennent pas du tout de poids, il y a des patients qui ont une très mauvaise tolérance cognitive, etc., etc. Et là encore, nous savons mal prédire cela. Et nous sommes dans une approche un peu pragmatique, où lorsque l'on constate qu'une efficacité n'est pas suffisante, ou lorsque l'on constate qu'une tolérance n'est pas acceptable, eh bien, nous savons que nous allons devoir changer d'option.
Mais on ne le sait pas avant, c'est ça. Et vos recherches, c'est là-dessus que vous les menez. Par exemple, sur le lithium, vous avez reçu un prix de la Fondation Marcel Dassault, justement sur les recherches que vous menez sur le lithium, pour essayer de savoir à l'avance sur qui ça va marcher, sur qui ça va pas marcher, c'est ça l'idée ?
Mais c'est un constat historique maintenant, puisque c'est un médicament ancien, comme l'a dit le professeur Rim Gachem. Nous le fréquentons depuis très très longtemps, mais nous restons très ignorants de ces mécanismes d'action. Et c'est pourtant un produit qui reste un chef de file, qui reste inégalé dans cet effet que l'on voit dans à peu près 30 à 40% de patients, qui sont complètement miraculés, qui éteignent complètement les fluctuations thymiques et dont le pronostic est très favorable grâce à l'instauration de ce lithium. Et donc on est très impressionné, très intéressé par cet effet thérapeutique entre guillemets miraculeux chez certains, qui contraste avec d'autres observations qui indique que le lithium n'apporte aucun bénéfice. Et cette variabilité interindividuelle de la réponse au lithium est aujourd'hui très mystérieuse. Et nous avons une équipe de recherche qui développe des projets de recherche qui visent à mieux comprendre ou à identifier des biomarqueurs qui permettraient de mieux prédire qui va répondre au lithium et qui ne va pas répondre au lithium. Mais cette problématique se pose pour d'autres psychotropes. Au passage, nous aborderons la question de la tolérance, bien sûr, puisque lorsque l'on conduit des études qui visent à identifier des biomarqueurs de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, on sera en mesure de tester des biomarqueurs de bonne tolérance ou de mauvaise tolérance.
Professeur Rim Gachem Attia, les patients tunisiens se plaignent-ils aussi de cette question des effets secondaires ?
Oui, tout à fait. Ça veut dire
ils ne sont pas différents de nous pour
ils
ça.
Ils ne sont pas du tout différents. Et comme l'a dit Monsieur Bellivier, on ne sait pas qu'est-ce qui est dû aux effets secondaires et qu'est-ce qui est inhérent aux symptômes résiduels de la maladie. Et la prise de poids chez la femme, c'est le premier effet indésirable que rapportent les patientes. Surtout, bon, le lithium, c'est vrai que avec le lithium, en général, ce que j'ai pas rencontré ce genre d'effets secondaires, mais avec les antiépileptiques qui sont utilisés comme des thymorégulateurs, on a souvent cet effet secondaire qui est rapporté. La prise de poids et d'autres symptômes.
Est-ce que ça fait que du coup certaines femmes arrêtent le traitement ?
Tout à fait. On perd beaucoup de vue pas mal de patientes qui reviennent après avec
un épisode
bruyant, avec beaucoup de catastrophes un peu sociales, parce que entre-temps elles ont perdu leur mari, les enfants sont devenus hostiles, et c'est pour ça qu'on essaye avant tout, comme vous l'avez bien dit, d'être surtout dans le préventif. Et ça, c'est ça qui est difficile à faire comprendre, c'est que tous ces traitements ne sont que préventifs. C'est pour essayer de diminuer, mais cette diminution va changer la vie de la personne et va faire qu'il ne va plus du tout présenter ni d'accès maniaque, ni d'accès dépressif, et de lui permettre une resocialisation et de pouvoir travailler comme tout le monde.
Mais j'imagine ce qui est compliqué, c'est que justement dans les phases de rémission où le traitement est efficace, quand on va bien, on se dit, mais finalement, pourquoi continuer le traitement ?
Exactement.
Je vais bien. C'est ça qui est compliqué.
Exactement, c'est ce qui se passe, mais c'est pour ça qu'on, justement, à côté des traitements, on institue des psychothérapies, mais actuellement, même en Tunisie, les TCC sont à la mode.
Les thérapies comportementales et cognitives.
Les thérapies comportementales et cognitives, la psychoéducation, les aménagements des rythmes sociaux, la thérapie interpersonnelle, toutes ces thérapies sont maintenant très préconisées en Tunisie, et surtout pour ce type de patients où on leur dit, à côté du médicament, vous venez nous voir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, et c'est pour revoir un peu, et on leur donne même le carnet qu'on a ici sur l'humeur jour par jour, pour pouvoir vraiment les suivre. Et quand ils trouvent qu'on s'intéresse à eux de façon aussi scrupuleuse, je crois qu'il y a une certaine je dirais pas confiance, mais ils ont l'impression que vraiment on y croit, et eux-mêmes vont y croire et vont adhérer à la prise en charge.
Alors pour la dernière partie de cette émission, on va revenir justement sur les questions à la fois de vie quotidienne, de cette psychoéducation, après avoir parlé donc du diagnostic et du traitement.
Priorité. Priorité Santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des troubles bipolaires avec entre autres deux patientes, Marie Alvéry et Hélène Gabert, qui ont raconté leur histoire dans J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir aux éditions Payot. Hélène Gabert, j'ai envie de vous demander comment se passe votre vie quotidienne aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à travailler, à mener une vie entre guillemets normale? Je ne sais pas d'ailleurs si ce terme est juste ou pas, qui mène une vie normale.
Une vie normale, je ne sais pas effectivement qu'est-ce que la normalité. En tout cas, je mène une vie équilibrée entre ma vie de famille et puis une vie active. Alors c'est vrai que j'ai fait le deuil de mon métier de commercial. Et aujourd'hui, je me suis reconvertie dans le domaine sportif puisque c'est vraiment mon domaine de prédilection et ma thérapie quotidienne, c'est de faire beaucoup, beaucoup de sport.
Parce donc, que votre activité commerciale, c'était trop de stress?
C'était trop de stress et je pense que j'ai une difficulté à ne pas me mettre de limites et à ne pas savoir dire non. Et j'espère que je pourrai le reprendre un jour, mais aujourd'hui, entre ma vie de famille et les objectifs mensuels, trimestriels ou annuels d'une activité commerciale, c'est trop de stress pour moi. Et pour moi, je préfère changer de cap. Ma santé a plus de a plus d'importance pour moi que mon métier.
À la fin du livre, vous, comme Marie, vous tirez un coup de chapeau à votre mari.
Bah oui, c'est lui qui est en première ligne de tir. Et je pense que c'est celui qui a plus souffert, supporté et qui a été le plus observateur du trouble bipolaire. Je pense que ma famille a mis du temps à s'en rendre compte, mes amis aussi. Je crois que tant qu'on ne vit pas au quotidien avec une personne, on a du mal à saisir et à comprendre.
Mais vous avez mis aussi du temps à le dire, non? Est-ce que je me trompe en disant ça à votre entourage? Pas l'entourage tout proche, hein.
Personnellement, j'ai pas spécialement mis du temps à le dire. Mais les gens me disaient, mais non, c'est une mauvaise passe. Et puis, en fait, je le disais sans vraiment trop y croire, en me disant, bon, allez, c'est lié aux événements de la vie. Et puis, un jour, je pourrais me défaire de ça, quoi. Ça aujourd'hui.
Juste une question, justement, par rapport à ça, professeur Bellivier. Est-ce que, avec l'âge, finalement, les crises aussi s'espacent de façon naturelle ou pas du tout? Il n'y a rien qui est lié à l'âge là-dessus?
Non, ça serait plutôt le contraire. On a l'habitude de dire plus ça cycle, plus ça cycle, plus c'est stable, plus c'est stable. Autrement dit, un des problèmes posés par le retard diagnostique, c'est que le rythme des phases dépressives et maniaques tend naturellement à s'accélérer.
D'où l'intérêt du traitement.
D'où l'intérêt du traitement, qui va ralentir, puis éteindre tout ça. En tout cas, c'est ça l'objectif. Donc, mais la tendance naturelle du trouble, ça va plutôt dans le sens d'une accélération.
Marie, votre vie quotidienne, c'est quoi? Ça se passe comment?
Bah, j'ai réussi à trouver un équilibre.
Vous travaillez chez vous, c'est ça?
Oui, je travaille. Pour moi, c'est très important. Mais je le fais chez moi. Voilà, c'est une manière aussi de me dégager de tout le stress de l'entreprise, des relations interpersonnelles qui peuvent être un peu compliquées, des délais trop courts, je m'organise comme je veux. Mais pour moi, le travail est indispensable. Sinon j'ai une famille.
Vous tirez aussi un coup de chapeau à votre mari, vous, à la famille?
Ouais. Bah oui, parce que je l'ai emmené quand même dans des drôles d'épisodes.
Dans des sacrées galères.
Je l'ai accusé de tous les maux, c'était mon bouc émissaire. J'ai dit à mes enfants qu'il faisait partie de groupuscules d'extrême droite.
Il a tenu le coup.
Il a tenu le coup, oui, un peu difficilement parfois, mais il a tenu le coup, il n'est pas parti. Il aurait pu partir et j'aurais vraiment compris.
Qu'est-ce que vous faites au quotidien quand vous sentez que d'un seul coup ça va un peu moins bien, qu'il y a quelque chose qui dérape? Est-ce qu'il y a des techniques que vous avez
mises
en place?
Alors, il y a des techniques que je commence à apprendre grâce aux thérapies comportementales cognitives. Je suis ravie, je fais un groupe.
Mais c'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement?
Il y a des outils, justement, faire son journal de l'humeur tous les jours en se mettant une note d'humeur, en comprenant à partir de quel stade concrètement on commence à être en zone d'alerte.
C'est quoi ça, la zone d'alerte?
Ben, la zone d'alerte, c'est la zone d'alerte. En fait, moi, ce que j'ai appris à Sainte-Anne, je suis ravie parce que c'est vraiment la notion du patient expert. Il y a un grave de l'humeur qui va de moins 10 à plus 10 en passant par 0. Et puis, à plus 5, on est... Donc, plus 5, c'est les phases maniaques.
C'est une zone d'alerte, donc
Oui, normalement, à l'hôpital. Et à moins 5, c'est une phase dépressive forte. On se retrouve normalement à l'hôpital aussi. Et donc, quand on arrive à plus 4, on est en zone d'alerte.
Mais cette zone d'alerte, pour vous, c'est quoi? Ça veut dire quoi,
justement, pour chacun, elle est différente. Donc, regarder.
C'est quoi? C'est d'un seul coup, plus envie de dormir, une phase, envie de faire plein de choses.
Voilà,
c'est quoi,
quand on commence à dormir, 3 heures pas. Mais c'est vraiment individuel. Donc, je me couche à 2 heures du matin. Je me réveille à 6, j'entreprends des tas de choses que je n'arrive pas à terminer, je passe des tas de coups de fil à mes amis, j'ai envie d'acheter des tas de choses dont je n'ai pas besoin, etc. Paf, zone d'alerte. Donc c'est une espèce de, voilà, on parlait tout à l'heure de, il faut pas se regarder, ben justement, il faut se regarder et s'observer.
Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez découvert cette zone d'alerte?
Il faut. Alors là, c'est toujours une communication avec le médecin, avec le psychiatre, lui communiquer un petit peu les symptômes qu'on est, en phase d'excitation, puis c'est à lui de réagir.
Justement, alors, professeur Bellivier, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un patient qui vous appelle en disant exactement ce que vient de nous décrire Marie?
Justement, on envisage depuis combien de temps ça dure, comment les choses se sont installées, est-ce que c'était en réaction à un stress, est-ce que éventuellement ça coïncide avec un oubli pendant quelques jours d'un traitement ou une modification spontanée de traitement et on apporte les correctifs soit par des prescriptions ponctuelles, soit au contraire par des mesures de réassurance, parce que parfois les patients ont du mal aussi à interpréter qu'est-ce qui est un symptôme d'alerte et qu'est-ce qui est finalement une réaction normale à un stresseur qu'il a rencontré.
Et c'est là-dessus qu'on progresse, je dirais, sur ces méthodes psychoéducatives dans la prise en charge des troubles bipolaires.
Alors, je voudrais revenir sur ce point parce qu'on a beaucoup parlé de la régulation de l'humeur par des traitements, etc. Mais tout à l'heure, j'ai mentionné le développement d'un arsenal thérapeutique un peu à la carte. Et nous avons la chance en France d'avoir un réseau de centres experts sur les troubles bipolaires qui a été mis en place par la Fondation Fondamentale et qui nous aide justement à déployer, à développer des outils un peu spécifiques sur des éléments que connaissent les patients bipolaires qui vont être des facteurs de maintien de stabilité de l'humeur. Hélène et Marie ont parlé par exemple de la gestion du stress qui est un élément difficile et on peut les aider par des mesures spécifiques là-dessus, sur la régulation des émotions, la régularité des rythmes circadiens, l'estime de soi, le soutien des proches sont aussi des mesures très utiles pour les patients eux-mêmes. Des actions également sur l'hygiène alimentaire, l'activité physique, bref, on a des packages de prise en charge spécifiques pour ces différents items qui contribuent à la constitution de programmes de prise en charge personnalisés à la carte en fonction de la situation de chaque patient. Et c'est ça qu'il est très important de développer et de communiquer avec les patients en leur disant, écoutez, voilà, on a mis en place le traitement, mais votre prise en charge, ça ne reposera pas que là-dessus. Et il faut vous informer des ressources disponibles près de chez vous pour tel et tel aspect de votre prise en charge.
Et ça demande des moyens humains en santé. Je voudrais juste vous faire part du message qu'on a reçu d'Aminata au Sénégal, qui dit, je suis suivie depuis 9 ans en psychiatrie à l'hôpital régional Saint-Louis au Sénégal pour des troubles bipolaires. Je sais qu'il n'y a qu'un seul psychiatre pour deux régions. Et quand j'ai rendez-vous, je patiente parfois plusieurs heures, plus de 3 heures avant de voir le médecin. La consultation dure même pas 10 minutes. Je pense qu'on doit revoir les dosages des médicaments qui pourraient assommer un cheval en un claquement de doigts. Elle dit, la prise prolongée de Trégétol et Nosinan est-elle sans conséquence? Ça fait au moins 3 ans que j'en prends. Et elle rajoute, je ne pense pas être disponible pour le direct, la faute au Nosinan justement. Une réaction par rapport à ça?
Alors, elle évoque deux choses extrêmement importantes. La première, c'est de l'adéquation entre l'importance du problème, les pathologies psychiatriques, le trouble bipolaire, pathologie fréquente, extrêmement invalidante, septième cause de morbidité en Europe et au niveau mondial, c'est encore
et
plus important.
Et par suicide, c'est ça quand on dit ça, moi.
Lié au suicide, lié au handicap conféré par la maladie, le nombre de journées d'arrêt de travail, le nombre d'années perdues. Et il faut redire qu'il y existe une inadéquation très importante entre l'importance du problème et les ressources qui y sont affectées. Évidemment que la situation que nous décrit
Aminata
au Sénégal est caricaturale. L'autre aspect, c'est les traitements. Et évidemment que la reconduction du traitement à l'identique au cours de sur des périodes de temps très longues et évidemment pas adapté à chaque patient. Cette patiente a probablement eu besoin de nosinant lors d'une phase aiguë. Maintenant, on est relativement à distance de cela. Il n'est pas certain aujourd'hui.
Que ce soit la peine de continuer. Donc c'est là votre coup de reconsulter. Juste une réaction par rapport à ça, professeur Gachet-Mathia. Vous manquez aussi de moyens humains.
En fait, nous sommes 272 psychiatres, comme je vous ai
très
dit.
Très rapidement, si vous voulez bien. Parce qu'on arrive
mais
à la fin,
au niveau des moyens humains, je pense que quand même, on est beaucoup mieux dotés que depuis 1970. Et les consultations durent beaucoup plus que ce qui est rapporté au Sénégal. Et en général, quand on a un patient qui a un trouble bipolaire, vraiment, on prend la peine. Ça peut aller jusqu'à trois quarts d'heure de consultation. On les appelle quand ils viennent pas. Et actuellement, il y a un grand effort qui est fait par rapport à la bipolarité, puisqu'on a même un forum bipolaire en Tunisie, on essaye de créer des associations, mais je pense qu'on arrivera à tout ce que vous avez en France quand quelqu'un viendra témoigner, écrira un livre sur la bipolarité en Tunisie.
Marie Elvéry et Hélène Gabert, je rappelle que vous avez publié ensemble « J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir » paru aux éditions Payot. Lundi, je vous retrouve avec plaisir en direct et pour ce début d'année où nous prenons tous de très bonnes résolutions, je vous propose justement de voir comment arrêter de fumer. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions. Bien sûr, comme d'habitude, le téléphone 33 1 84 22 75 75 et les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Bonne fin de semaine à tous. À lundi.